Carnet de campagne avec la CARAC, mutuelle d'épargne et de retraite engagée pour votre patrimoine. Rendez-vous sur carac.fr. France Inter. Philippe Bertrand.
Carnet de campagne, bonjour. S'il existe une discipline complémentaire de toutes les matières que nos enfants abordent à l'école, c'est bien l'archéologie. Et c'est à cet effet et à l'intention des enfants que l'association Alternative Archéologique organise depuis 7 ans des ateliers pédagogiques. Le siège de l'association est à Sotteville-lès-Rouen, en Seine-Maritime, le département de référence de la semaine, où nous rejoindrons à nouveau tout à l'heure Nicolas Stoufflet pour le jeu des 1000 euros. C'est certainement une première dans le genre, vinifier du vin en pleine ville. Cela se passe à Lyon et Géraldine, deuxième invitée, a créé ce chai de vinification afin d'ouvrir un circuit court de consommation.
Carnet de campagne. Le journal des solutions.
Jasmine Boudot, bonjour.
Bonjour.
Claire nous a envoyé une lettre. Je vous lis, enfin deux lignes, c'est très simple, mais elle résume bien les choses. À propos de l'association Alternative Archéologique, créée par un collectif formé d'archéologues, de retraités du milieu social ou encore du médical, ils ont à cœur de se déplacer auprès des enfants dans les quartiers dits sensibles pour les sensibiliser justement à l'histoire humaine et plus largement les ouvrir aux autres et dépasser les clichés communautaires. J'aime bien le résumé parce qu'il dit beaucoup de choses et vous êtes présidente de cette association basée à Sotteville-lès-Rouen. Je trouve qu'effectivement dépasser ce cliché communautaire, c'est peut-être essentiel ce que vous faites.
Tout à fait. Et c'est vrai que l'archéologie s'y prête bien parce que ça permet d'aborder tous les sujets qui sont inhérents à la vie humaine, de la naissance jusqu'à la mort, et aussi des sujets qui peuvent paraître un peu délicats, comme la religion.
Comment vous procédez avec les enfants ?
Oh, c'est, je vous dirais, assez simple finalement, parce que nous réalisons des ateliers en école ou en centre de loisirs, ou même dans des structures spécialisées à destination des personnes handicapées. Donc on fait en sorte d'adapter bien sûr nos propos à l'âge des enfants et on y va sans a priori, enfin le moins possible tout du moins. Et voilà, on essaye d'expliquer le plus simplement tout ce qui a pu se passer dans notre histoire.
Oui, alors l'archéologie, il y a un temps de théorie, mais il y a un temps de pratique. Comment on peut pratiquer avec les enfants ?
Alors nous avons créé un bac de fouilles qui est transportable puisqu'on se rend dans les établissements. Et c'est à cette occasion-là que les enfants, dans du sable bien sûr, peuvent fouiller comme les archéologues et trouver des objets qui sont en rapport avec notre histoire. Et après la découverte, on fait comme les vrais archéologues, on regarde ce qu'on a trouvé, on essaye de les dater, on essaye de comprendre quel type de site archéologique on a bien pu fouiller.
Les enfants apprennent beaucoup. Qu'apprend-on des enfants dans cette démarche ?
Eh bien finalement, ce que nous, on retient le plus, c'est qu'ils sont beaucoup moins dans des idées préconçues que peuvent être les adultes. Ils ont un abord plus simple et plus direct au sujet, je pense, entre autres au sujet qu'est la mort. Et c'est ça aussi, c'est cette capacité à pouvoir avoir un certain recul vis-à-vis de ces sujets-là.
Il y a la mort, il y a la mémoire aussi qui est importante.
Tout à fait. Oui, il est important de les sensibiliser à notre patrimoine, à sa sauvegarde et à sa transmission, puisqu'ils se sont les gardiens de cette mémoire-là, c'est les gardiens de demain, donc effectivement, il est très important de les sensibiliser à ce sujet-là.
Savoir d'où l'on vient pour savoir où l'on va. La création est récente, hein, janvier 2014, plus de 650 enfants de 5 à 12 ans qui ont pu profiter de ces ateliers. Alors c'est un peu trop tôt pour vous demander si ça a créé des vocations, mais ça a dû susciter un intérêt. Est-ce que vous avez pu suivre l'évolution de ces enfants ?
Alors malheureusement non, parce qu'il est vrai qu'on fait des interventions qui sont ponctuelles, même si on revoit certains enfants dans les écoles d'une année sur l'autre, parce que lorsqu'ils sont en CP, si on y retourne l'année suivante, ils sont en CE1, donc on les recroise. Mais effectivement, on n'a pas pu savoir si on a créé des vocations. Par contre, on a toujours des retours, jusqu'à maintenant, positifs sur ce que les enfants ont appris et ce qu'ils ont ressenti aussi lors de nos ateliers.
Et puis, je voudrais vous remercier sincèrement, vous, Jasmine, et l'association, pour ce que vous avez fait pour les enfants hospitalisés.
Oui, c'est vrai que ça nous tenait à cœur de pouvoir proposer aux enfants hospitalisés de découvrir comme tout n'importe quel enfant le monde de l'archéologie et de pouvoir aussi les divertir, puisque là c'est une solution Archéros qui est une solution numérique. Donc ça permet soit aux enfants qui sont de passage à l'hôpital de pendant quelques minutes de changer les idées, ou pour ceux qui malheureusement doivent rester un petit peu plus longtemps à l'hôpital, apprendre de façon un petit peu plus poussée le métier d'archéologue, sans qu'il y ait les difficultés à faire rentrer finalement nos ateliers, parce qu'il y a toujours des questions d'hygiène dans les structures hospitalières et qui sont difficiles très souvent à franchir. Donc c'est vrai que le numérique était l'outil idéal dans ce cadre-là.
Ouais, puis il y a des hôpitaux, des unités pédiatriques qui, au-delà de la Seine-Maritime, puisque vous êtes en Seine-Maritime, peuvent être drôlement intéressés par cette mallette numérique Archéros.
Tout à fait. Et nous, on serait très heureux de pouvoir la diffuser vraiment à travers toute la France, ou même au-delà, puisque dans des pays francophones, il n'y a pas de souci pour qu'elle soit mise en place. Et je vous dirais que c'est presque simple en un clic, puisqu'il suffit de nous demander le dossier numérique, on l'envoie et après, c'est installé directement sur les tablettes et à mettre entre les mains des enfants.
Donc, formidable.
C'est vraiment pas compliqué.
Ouais. L'association, au passage, a été lauréate du prix de l'initiative en économie sociale de la Fondation Crédit Coopératif. Le site, c'est alternative-archéologique.fr. Merci beaucoup, Jasmine.
Merci à vous.
France Inter, carnet de campagne.
J'ai été très intrigué par le courrier d'Octave, ou plutôt de Laure, violoniste, compositrice et en quelque sorte maman d'Octave. Octave est une application très séduisante qui associe la musique à la méditation. Octave, c'est surtout une musique originale, écrite spécialement pour chaque thème de la méditation. Une première méditation est d'ailleurs en ligne sur la page Facebook de notre correspondante, Laure Chapleur, violoniste. Le lien est à nos pages, franceinter.fr et aussi sur notre page d'émission sur Facebook. Tout part d'un postulat confirmé à maintes reprises, évidemment, à savoir que les fréquences musicales entrent en résonance avec le corps. L'application téléchargeable va comprendre une série de 7 méditations pour les personnes qui souhaitent faire l'expérience en 7 jours. Mais il y a aussi des méditations à l'unité, c'est un bon anti-stress et une aide à bien dormir. Et puis aussi des contes de sagesse. Depuis leur local aux portes du parc des Cévennes, Laure, sa compagne et son frère mettent au point leurs programmes musicaux qui bénéficient d'une campagne de soutien participatif qui est normalement en voie de conclusion, mais je viens de vérifier, elle est terminée hier. Donc, et tout a fonctionné. Je ne sais pas si on peut continuer à contribuer, mais vous pouvez aller voir parce que vous avez des explications détaillées sur ce programme de la méditation pour tous. Et je cite pour conclure notre compositrice, en créant cette application, nous avons à cœur de mettre à disposition du plus grand nombre ce en quoi nous croyons profondément, la méditation comme outil de transformation intérieure millénaire, une pratique de connaissance et de connexion à soi, ainsi qu'au monde qui nous entoure. Le site, c'est octavemedite.com. Géraldine Dubois, bonjour.
Bonjour.
Géraldine, je veux dire Dubois de Chêne, évidemment.
Exactement. Ouais, on est en plein dedans.
Ouais, bah oui, c'est facile. Vous avez créé un chai de vinification à Lyon pour faire un circuit court de vin. On va expliquer cela. D'abord, un chai de vinification. Donc, on parle justement de fût de chêne pour le vieillissement, le travail naturel du vin.
Oui. Alors, en effet. On parle de vieillissement en bois, en fût de chêne, qui est une étape que je ne fais pas aujourd'hui parce que je viens d'ouvrir et que j'ai fait ma première vendange en 2021, donc j'ai pas encore eu le temps de mettre en place de l'élevage en fût. Mais je le ferai certainement parce que j'ai une cave qui me permettra de le faire. Mais en fait, au-delà du chai urbain, moi, ce que je voulais proposer avec la tétue à Lyon, c'était vraiment de créer ce circuit court du vin et de proposer une nouvelle façon de produire le vin, de vendre le vin et également de consommer le vin. Parce que le fait d'avoir un chai urbain, c'est pas uniquement pour montrer aux gens comment on vinifie, mais c'est aussi rapprocher la production de vin de la commercialisation et de la consommation. Et pour ce faire, en fait, moi, je suis vigneronne. Hein, j'ai une vigne qui se trouve en Coteau du Lyonnais, qui est à 20 km de Lyon, pour justement rester sur des circuits locaux. Je ramène mes raisins dans ma cave qui est située à Lyon, je vinifie et je vends ensuite le vin en vrac, en bouteille consignée. Et je tenais vraiment beaucoup à ça parce que déjà le circuit du verre, même si le verre est recyclé, c'est quand même très consommateur d'énergie. Le vrac, c'est un système qu'on utilisait beaucoup avant, qu'on a un peu oublié, alors qu'il revient au goût du jour, mais qui est peut-être pas assez développé, enfin en tout cas à mon goût. Et je pensais que quand on fait du vin, qu'on est en bio, qu'on essaie de respecter l'environnement, d'être développement durable, etc., c'est un peu dommage ensuite de mettre son vin dans des bouteilles qui ne vont pas être réutilisées et qui seront envoyées un peu partout dans le monde.
Le fait de beaucoup de grands domaines aujourd'hui, qu'ils soient de Bourgogne ou du Bordelais, pour citer les principaux, mais on pourra ajouter les Côtes-du-Rhône et bien d'autres, aujourd'hui, il suffit d'appuyer sur un bouton et le producteur a de toute façon son marché assuré vers l'Asie.
Oui, alors c'est peut-être pas si simple que ça. J'ai eu un domaine viticole entre guillemets classique dans le sud de la France. C'est pas si simple que ça, mais c'est vrai qu'il y a une forte demande quand même à l'export. Et après, je critique pas du tout les vignerons, hein, parce que c'est vrai que c'est une sécurité aussi pécuniaire que d'avoir des palettes entières qui partent d'un coup au Japon, en Asie, etc. Mais c'est simplement que moi, je voulais proposer autre chose. Voilà. Et je pense qu'il y a la place aujourd'hui pour proposer une offre complémentaire au domaine viticole classique, qui soit plus locale, en circuit court et plus respectueuse de l'environnement au niveau de l'utilisation des matières sèches.
Ouais. Géraldine, vous avez du métier suite à votre formation en viticulture et œnologie au Centre de formation professionnelle agricole pour adultes, pour le citer pleinement, de Beaune. Vous avez travaillé dans différents domaines, vous le disiez, dans les Pyrénées-Orientales, dans le sud, mais aussi à Nuits-Saint-Georges. Dire aujourd'hui, je vais ouvrir un chai de vinification en plein cœur de ville, ça casse complètement l'image de ce qu'est le monde de la viticulture. En général, les chais sont au cœur des domaines, au milieu des vignes, et pas en quai de Saône.
Oui. Alors, en fait, ce chai, c'est faire le choix aussi de se rapprocher des consommateurs. Sachant qu'après, si j'ai choisi Lyon, c'est aussi parce que c'est une ville qui est entourée par les vignes. C'est-à-dire que moi, l'idée, c'est pas d'aller chercher du raisin à 200 km d'ici. C'est vraiment de rester en ultra-local, ce qui est tout à fait possible à Lyon, puisqu'on a une appellation qui s'appelle les Coteaux du Lyonnais, qui se trouve donc entre le Beaujolais, le sud Beaujolais et le nord des Côtes-du-Rhône, et qui permet largement d'avoir des terroirs très qualitatifs pour obtenir des raisins en local, en bio, et finalement aller les chercher à 20 km, ça va pas produire une empreinte carbone trop importante.
Ouais. Alors, pardon cette familiarité, vous êtes têtu?
Ben, en fait, pour monter un projet comme ça, je pense qu'il faut être sacrément têtu. Parce que ça renverse tous les codes. Et c'est un vrai pari un peu fou. Même moi, parfois, j'ai un peu du mal à y croire. Mais voilà, en tout cas, ça répond à mes convictions, à mes valeurs. Et c'est ça qui m'anime. Parce qu'aujourd'hui, je peux proposer un vin qui, éthiquement, me paraît complètement éco-responsable.
Incroyable. Voilà, une vinification urbaine. Est-ce que vous avez trouvé un graphisme pour représenter la têtue?
Oui, tout à fait. J'ai un logo avec un âne.
Ah bah c'est pas sympa pour vous.
Après, pourquoi pas, hein, ça reste un animal très utile.
Absolument.
Absolument. Il faut pas le dénigrer.
Il y a une page Facebook, la têtue vin, si vous voulez en savoir davantage. Merci Géraldine.
Merci à vous.
Une petite annonce pour conclure, mais qui est bien originale et qui touche une reprise d'activité très particulière. Donc écoutez bien, Bruno, auteur de l'annonce qui nous est parvenue, se dit melanger. Entendez meunier, boulanger, mais surtout le lieu d'exercice de cette double profession est peu ordinaire. Il s'agit d'un moulin éco-musée. Il se situe sur la commune de Montfleur dans le Jura, à l'intersection de trois départements, le Jura, l'Ain et la Saône-et-Loire. Nous sommes à 25 km au nord de Bourg-en-Bresse et 40 km au sud de Lons-Saunier. Si le moulin de l'écomusée est ouvert aux visites, la principale activité est celle de se mélanger avec ce moulin qui tourne depuis le Moyen-Âge à force hydraulique. La vocation du moulin est de faire des produits sans additifs et auxiliaires technologiques. Le moulin a deux paires de meules en production, une pour produire la farine de gourde, c'est-à-dire de maïs tosté, de maïs grillé, l'autre pour la farine de blé. issus d'une agriculture bio locale. Donc Bruno, qui réalise ses pains à l'ancienne, compte prendre sa retraite très prochainement, début 2022, enfin dans le premier trimestre 2022, et cherche à transmettre son activité, pour ainsi dire, patrimoniale. Il est locataire de son outil de travail par l'intermédiaire d'une convention de mise à disposition, et il paie son loyer au trésor public. Bruno fabrique jusqu'à présent des pains au levain naturel, et des gammes de biscuits dans un four à bois, le four de boulanger à gueulard, comme on dit. Et pour tout renseignement, je vous invite à lire les pages du site de l'écomusée, hein, moulin.écomusée.jura.free.fr, c'est long, c'est sur nos pages aussi, comme toujours. Et puis à l'adresse électronique de Bruno, si vous voulez entrer en contact avec lui.
Carnet de campagne avec la CARAC, mutuelle d'épargne et de retraite engagée pour votre patrimoine. Rendez-vous sur carac.fr.